Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic. Radio
Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, bonsoir, c'est l'heure de Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3. Avec moi ce soir dans le studio, CZ. CZ, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Florence, bonsoir les amis autour de la table, bonsoir Senzo à la technique et bonsoir les auditeurs.
Alors, CZ, au programme pour toi ce soir?
Quatre petites pépites que je vais vous dégoter.
Et puis, on en parle ou pas avec Philo?
Oui, bonsoir Florence, bonsoir les auditeurs. Alors, aujourd'hui, j'ai deux débats à vous proposer. Donc, vive les soldes ou vive la France?
Ah, un grand débat, donc oui. On verra ça tout à l'heure si on en parle ou pas. Et puis, les rendez-vous de Georges. Bonsoir Georges.
Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de Marie-Antoinette.
Voilà, le 14 juillet arrive bientôt, d'ailleurs.
Exactement.
Et puis, on écoutera une petite interview de Rachid Santaki, qui était au Café Blabla de la médiathèque Gulliver de Saint-Denis. Et puis, Mehdi n'est pas là, mais il sera là pour la prochaine avec nous. Il joue les archéologues aujourd'hui, Mehdi. Peut-être qu'il va nous dégoter, je ne sais pas, quelques pièces d'or, des sous, je ne sais pas. On verra ça, il nous le dira. En tout cas, on va commencer tout de suite avec un reportage. Il a rencontré Philippe Poutou et il nous a parlé des banlieues.
La banlieue, synonyme de violence pour certains, de vie pour d'autres. Nous nous sommes rendus sur le marché de Saint-Denis, fameuse ville du 93, à la rencontre des habitants pour leur demander ce que leur évoque ce mot.
C'est une ville populaire, sympathique, dans laquelle moi, ça fait des années que je vis ici. Je suis très contente de vivre ici parce qu'il y a plein de gens d'origines différentes et tant mieux. Hein.
Saint-Denis, ce n'est pas que des points positifs. La banlieue a aussi ses problèmes et nous en avons parlé avec un commerçant.
C'est des batailles de rue comme encore hier soir et c'est récurrent. C'est une ville très sale parce que des gens sont sales aussi et ne font pas attention avec des négligences.
Dans une petite rue adjacente à la rue de la République, nous avons rencontré une artiste dionysienne qui nous a livré son analyse sur la cause de ces problématiques, peut-être un peu moins simpliste que celle du marchand.
Qu'est-ce qui me déplaît dans la banlieue? C'est peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'y ont pas forcément du travail. Et que du coup, en fait, ça engendre de la pauvreté, ça engendre aussi des trafics. Ça engendre aussi peut-être des comportements qui ne sont pas agréables au quotidien. C'est pas forcément en fait que la vie en banlieue elle est violente, mais simplement je trouve qu'à force d'avoir plein de petits comportements en fait qui sont pas agréables pour la vie de tous les jours, finalement on ressent ça après comme des mini violences qui s'accumulent et qui du coup en fait font qu'on supporte plus du tout ou quoi que ce soit quoi. C'est aussi ça la vie en banlieue, c'est pas que ce qu'on imagine. Les trafics, les cités, ce genre de choses, ça existe. Il ne faut pas non plus mettre le nier, ça existe aussi. Il faut aussi comprendre les raisons. Et il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui aient l'envie un peu de changer les choses, d'ordonner une dynamique en fait, un petit peu à tout le monde. Et voilà, ça serait important.
Allons voir du côté des politiques. Nous avons rencontré Philippe Poutou à Montreuil.
Les banlieues, ça évoque ce qu'on appelle maintenant les quartiers populaires. C'est à la limite, banlieue, ça serait l'ancien nom, quartier populaire. Donc, des endroits où il y a le plus de pauvreté, le plus de difficultés à vivre au quotidien. C'est l'endroit où on voit bien une majorité immigrée ou d'origine immigrée. Voilà, donc des grands bâtiments en règle générale. Et puis, donc des endroits où certainement la crise s'exprime de manière la plus brutale.
Et pour finir, prenons du recul et philosophons un petit peu en écoutant Alain Badiou que nous avons interviewé.
Je pense que si on veut parvenir à avoir un monde plus égalitaire, il faut malgré tout attaquer la propriété privée. Il est absolument insupportable que un très petit nombre de personnes possèdent des moyens de production ou de communication. qui appartiennent normalement à tout le monde. Vous comprenez, c'est quand même pas normal que Google, par exemple, soit une société de milliardaires, alors qu'au fond, c'est un service public de communication entre les gens. Voilà. Donc, il y a cette première proposition. Il faut regarder de très près la limitation de la propriété privée. Et puis, il faut, je pense, de plus en plus pratiquer l'entente internationale, le brassage des populations, et aussi accepter comme une qu'il y ait des différences dans l'humanité, non pas comme un défaut, mais comme une chance. Voilà.
L'inégalité puise ses racines dans le néolithique. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Oh, c'est extrêmement simple. C'est au moment du néolithique que s'est mis en place la société hiérarchique, la société avec des différences terribles. C'est à cette époque-là qu'on a vu des paysans extrêmement pauvres et des seigneurs extrêmement riches. Alors naturellement, à travers tout ça, c'est eux qui ont inventé les grandes villes, les monuments, les armées, l'écriture, tout ça. Donc tout ce qui nous sert encore aujourd'hui. Mais ils l'ont fait au prix d'une société terriblement inégalitaire. Alors moi, je pense qu'il faut garder tous ces acquis, toutes ces créations, toutes ces nouveautés, la technique, etc. Mais qu'il faut essayer de bâtir avec ça un monde vraiment égalitaire.
Radio Déclic, Radio Déclic, 106.3. Alors nous sommes en compagnie de l'écrivain Rachid Santaki à la médiathèque Gulliver pour le traditionnel Café Blabla. Rachid, bonjour.
Bonjour Florence.
Alors Rachid, on ne te présente plus, hein, tu es auteur, journaliste, romancier, scénariste, organisateur avec l'association Force des Mixités de la Dictée des Cités. Tu es en résidence depuis bientôt un an dans les médiathèques de Saint-Denis, dans le cadre du dispositif Écrivain en scène Saint-Denis. Tu as animé des ateliers d'écriture, alors comment ça s'est passé et explique-nous quel a été ton travail.
Le dispositif de résidence d'écrivain en Seine-Saint-Denis, c'est d'animer différents ateliers avec différents publics. Donc c'est ce que j'ai fait durant cette année. J'ai travaillé avec l'association des femmes des Francs-Moisins, la maison de quartier des Francs-Moisins. Parce qu'en fait, ça s'est beaucoup fait aussi par rapport à la médiathèque Ulysse. Donc différents ateliers avec le lycée Sugère, le collège et également à la médiathèque Gulliver où ce matin on a le café Blabla, mais j'ai également fait une dictée et également rencontré des élèves du collège et des écoliers où on a parlé de langue française. Donc c'était très riche, très varié. Je pensais que c'était un peu plus calme que ça les résidences, mais en fait c'est très dense. Et puis t'apprends, tu rencontres pas mal d'habitants, donc t'es vraiment en immersion. Et je pense que ça fait partie aussi des choses que tu prends de front, dans le sens où c'est hyper riche. Mais voilà, donc j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. Très intéressant. Ce que je trouve aussi, ce qui est essentiel, je pense, quand on écrit, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de se nourrir aussi du quotidien des gens, parce que notre point de vue, il change par rapport à notre situation. Je pense que c'est un petit peu le cas pour moi. Le bilan, ce serait riche et très, très intéressant.
Alors, justement, hein, on te connaît pour... tu as été, on t'a donné le nom de l'auteur des cités. Est-ce que finalement, à travers le livre que tu as écrit, très proche de la banlieue, hein, puisque tu y vis, tu es né, tu la connais très bien, le milieu hip-hop aussi, hein, donc tes livres, pour la plupart, c'est un mélange de tout ça. Est-ce que finalement, ta présence dans les médiathèques avec la rencontre, et notamment des jeunes, a pu susciter des vocations pour l'écriture ou la lecture ?
Alors, concernant, on va dire, les gens qui ont grandi dans le même univers que moi, j'ai aujourd'hui 43 ans, ça passe vite, donc je suis plus un jeune homme. Donc j'ai rencontré d'autres publics auxquels plutôt je me suis adapté. En fait, j'étais plutôt à l'écoute de ce qui les intéresse et de leur proposer un échange autour de leurs intérêts. Ça s'est très bien passé pour la plupart. Je pense qu'au-delà des différents univers, que ce soit la périphérie, donc on va dire la banlieue, que ce soit la culture hip-hop, tout ça, ça a beaucoup évolué par rapport au public que je peux rencontrer. Alors ça dépend, là ce matin dans le Café Blabla, je pense que je vais rencontrer des gens assez matures où on aura pas mal à échanger, mais en général je m'adapte plutôt à la demande et à la curiosité de mes interlocuteurs. Donc c'est une autre démarche en fait que tu es obligé d'avoir vis-à-vis de tes publics. Et c'est de se dire, on part de vos envies pour construire un projet ensemble.
Justement, aujourd'hui, tu es à la médiathèque Gulliver du quartier Floréal Saucé-Courtille pour le Café Blabla. Alors, qu'attends-tu, toi, de cette rencontre avec les habitants ?
Je pense que je vais être surpris. Je suis toujours surpris parce que je pense quand on lit une œuvre, quand on voit un film, notre point de vue, il est toujours différent. C'est notre point de vue qui est lié aussi à notre histoire, à notre interprétation. Donc je pense que je vais être agréablement surpris par la pertinence en fait, des gens que je vais rencontrer. Ça, j'en suis certain. Et du coup, ça me fait aussi, ça fait évoluer mon point de vue. C'est il y a des choses, je pense, je me doute un petit peu, il y a des sujets qu'on va aborder qui vont être aussi mon rapport au territoire, leur point de vue aussi sur la noirceur de mes ouvrages. Après, j'ai équilibré en ajoutant dans les ouvrages La France de demain pour montrer aussi un autre angle. Mais je suis très preneur de ce genre de rencontre parce que ça te fait mûrir, en fait. Ça te fait mûrir et j'ai besoin, je pense qu'en tant qu'auteur, on ne doit pas rester dans une position, dans une espèce de monologue. Donc des rencontres, ça nourrit, ça nous permet d'avoir un double sens aussi, d'enrichir notre point de vue.
Alors justement, on y vient, en 2015 donc sort le livre La France de demain. Alors quelle est-elle pour toi cette France de demain et qui sont les gens qui la composent ?
La France de demain, c'est aujourd'hui, effectivement aussi, t'as demain. Alors on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est cette jeunesse. C'est aussi ces acteurs, c'est les acteurs à en devenir, c'est les acteurs qui le sont aujourd'hui dans la transmission. On est dans une société qui change. Je suis parti 3 semaines l'année dernière aux États-Unis. Et quand je suis parti là-bas, c'était la première fois que j'y allais. Ça m'a frappé parce que j'ai vu la France dans 10 ans. Et quand je dis j'ai vu la France dans 10 ans, c'est que je l'ai vu aussi dans la précarité. On va aujourd'hui aller de plus en plus vers des services privés. Donc forcément, en termes de services publics, ça va être conçu différemment. On a un nouveau président de la République qui va aussi dans cette démarche. Et ça va obliger les gens quand même à être autonomes. Quand je dis autonomes, c'est que les gens les gens en précarité seront laissés sur le carreau. Parce qu'avec notre société, depuis l'euro, on l'a vu, la vie elle est de plus en plus dure. Donc la France de demain, ça va être... on est en plein changement. Et c'est une France qui est complètement différente des années 80-90. On est dans autre chose, plus dur, peut-être plus d'individualisme. Donc les gens qui vont réussir à casser cette espèce de dynamique qui fait partie de notre société de consommation, etc., ben, ça va être eux les acteurs essentiels. Donc j'en ai pas en tête, mais j'en rencontre pas mal de gens qui ont envie et les choses sont en train de se faire maintenant. Donc la France de demain, c'est en tout cas dans l'ouvrage tel que je l'ai décrit, je parlais des gens qui menaient des actions, des points de vue aussi en maison d'arrêt, puisque j'interviens en maison d'arrêt, de l'école aussi, puisque les enseignants sont des jeunes que j'ai connus, qui sont devenus enseignants, qui transmettent. Donc c'est un point de vue aussi, la France de demain, c'était un point de vue sur notre société et sur des sujets qui sont essentiels. Donc l'éducation, le territoire, le travail... notre rapport aussi à la société.
Calme-toi, arrête de flipper, on n'a aucune preuve que c'est eux. Tue-moi, vas-y, tue-moi, j'en peux plus d'être mon esclave.
Alors, tu es actuellement en écriture pour le cinéma et la télé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ça fait 5 ans donc, que je développe du scénario. Ma première aventure, c'était avec Pierre Lacan, donc, qui avait réalisé Les Légitimes Défenses. On a travaillé ensemble pendant 5 ans sur l'adaptation de mon premier roman. Ça a été enrichissant, mais en même temps, ça a été, on est arrivé face à un mur, parce qu'il fallait proposer le projet à des prods et tout. Et puis, il faut une légitimité. Donc j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Entre-temps, j'ai développé pendant 1 an et demi une série qui s'appelait Reverso, un projet de série pour Canal. J'étais jusqu'au dialogué. Aujourd'hui, je cumule, j'ai plus de 11 projets qui sont à stade fini dialogué ou en début. Et du coup, pour Les Anges, en fait, c'est en train d'aboutir parce que je suis en train de travailler avec un réal. Et pendant ces 5 ans, en fait, j'ai rencontré pas mal de boîtes de prod. Et je travaille aussi avec les producteurs de La Cité Rose. Qui sont associés à Backfilm et du coup qui vont offrir pas mal de séries télé. Donc aujourd'hui j'écris beaucoup, c'est intéressant, mais c'est pas du tout la même dynamique que l'ouvrage, qu'un ouvrage littéraire, parce que du coup l'écriture de scénario, en fait, c'est des validations. Tu vois, c'est des espèces d'étapes et t'es pas tout seul, il y a du monde en fait sur un projet. Donc actuellement, je dirais que l'adaptation des anges, et j'ai un autre projet qui s'appelle Bonhomme, qui devrait, d'ici la rentrée, on devrait avoir un prod pour pouvoir faire une mise en production. Mais c'est très long.
Tu es auteur, écrivain, journaliste, réalisateur, scénariste. Aujourd'hui, tu écris des scénarios aussi pour la télé, le cinéma. Que reste-t-il à faire à Rachid Santaki ?
Je sais pas, c'est une bonne question. Du coup, l'idée, en tout cas, c'est que mes projets soient mis en production. Avec les années de travail, la rigueur que je me suis donnée, la constance, ça devrait aboutir, j'ai pas de soucis. Et bizarrement, je sais pas ce que je ferai après. Par la suite, je me dis, je voudrais aller vers la prod, produire des projets. J'ai pas la casquette de réalisateur, hein, juste pour préciser, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Et du coup, ouais, j'aimerais aller vers de la coprod et peut-être mener d'autres projets, en fait. Peut-être sortir aussi du champ artistique, production. Mais je me donne peut-être 5 ans. Mais j'y pense déjà, en fait. Je pense déjà à qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite. Donc, à voir. Mais ça germe déjà.
Peut-être un prochain livre en tête aussi ?
Oui, dans le cadre de la résidence, en fait, j'ai un livre qui s'appelle La Boulette, qui devrait sortir, qui sort chez Syros, un éditeur jeunesse. Et voilà, je vais tester aussi après l'essai La France de demain, je vais tester le roman jeunesse aussi.
C'est-à-dire, après la résidence, est-ce que c'est quelque chose que tu as écrit pendant la résidence et seul ?
Oui, du coup, la boulette, en fait, ça fait partie quand tu es en résidence. Donc le dispositif auteur écrivain en Seine-Saint-Denis, c'est de passer du temps dans des établissements publics. Donc là, en l'occurrence, ce sont les médiathèques, avec différents publics, mener des ateliers, des projets. Et en parallèle à ça, pendant ce temps, pendant ces 10 mois, tu dois écrire en fait un ouvrage. Donc tu vois, c'est une aide à l'écriture, assez, je trouve, sensée, puisque tu dois t'investir auprès des habitants. Je trouve que c'est un très bon équilibre.
Merci beaucoup, Rachid.
C'est à toi, Florence, et à l'équipe de Radio Déclic.
Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Anciennement, this is la peste. J'ai souvent la pêche, tout le temps la banane. Un sourire au milieu du faciès. Je viens d'un Tiex, les coups durs, je les encaisse. T'inquiète, je fais ma quête, je ne cesse de relever la tête. Pour ce texte, franchement, je vais pas faire des jolies phrases ni des jolies phrases. Je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage et que mon message, c'est l'appel, l'amour, la foi. De ces trois mots, je suis otage. J'ai le syndrome de Stockholm, je me dois en tant qu'homme de rester fort et dur, même si la vie déconne. J'ai des sous, c'est vrai, mais j'ai aussi des soucis. Écoute mon album du blé, tu verras qui je suis. Ce qui m'inspire, c'est les films et les livres, notamment Gloria, l'alchimiste et l'esquive. J'étais qu'un jeune de banlieue, maintenant je vends des disques et des films. Mais je suis toujours un jeune de banlieue, à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance, qui croient faire des blagues toutes pérables, on n'a pas le même sens. Ni de l'humour, ni de l'amour, et pour la France, peu importe ce que je ferai, à jamais dans sa conscience. J'ai qu'un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent sur mon milieu théoriste. Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse. Au début, j'essayais de camoufler mon accent banlieusard. Mais quand je m'entendais parler, je trouvais ça bizarre. Est-ce que l'Auvergnat a honte de son environnement? Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment? Pourquoi les artistes de chez nous n'ont pas leur part entière? Est-ce que Jamel aura le même rôle sa vie entière? J'aime pas me faire du fric sur la misère, mais je te jure que mes galères, j'en suis fort et j'en suis fier. Je suis fier de là où j'ai grandi. Y'a pas que des taudis, y'a quelques bandits. Mais on vit, qu'est-ce que t'en dis? Je suis fier d'être un jeune de banlieue. Ce qu'ils montrent de chez nous est faux. Je suis fier de mon milieu et je suis qu'un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.
C'était This is La Peste avec le titre Jeune de banlieue.
Radio Déclic 106.3. C'est l'heure des pépites de CZ, direction l'Australie.
Oui, la soirée de ce jeune Australien a été passablement arrosée, au point qu'il ne se souvenait pas le lendemain matin comment il avait bien pu réussir à regagner son domicile. L'énigme n'a finalement duré que quelques minutes. En ouvrant son téléphone, il a rapidement percé le mystère. Les policiers qui l'avaient ramené s'étaient offert un petit selfie, tout sourire, avec lui en arrière-plan, sur le point de se coucher. Il s'est rapidement amusé sur Facebook en y postant le cliché au réveil. Ce à quoi n'a pas manqué de répondre la police en y apportant quelques précisions sur le déroulement des faits. Une compagnie de taxi a contacté les autorités pour ramener le jeune homme chez lui. Les policiers ont alors récupéré son adresse et l'ont reconduit à son domicile, en prévenant également un ami de ce jeune homme qui a pris le relais à leur départ. Mais le duo de choc ne pouvait laisser passer l'occasion de faire un petit selfie afin que le fêtard découvre comment il était parvenu à rejoindre son petit lit douillet. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais là, c'était pour l'aider à se rappeler comment il était rentré chez lui, ont expliqué les policiers, invitant au passage les fêtards à planifier leur retour quand ils ont prévu de s'enivrer. Quand même sympa, les Saint-Bernard du pays des kangourous. Hein.
Oui, bah en tout cas, plus sympa que les nôtres, hein, si ils commencent à faire des selfies. Voilà, donc on invite la police australienne à venir faire des petites formations en France, à samedi en tout cas.
Tout à fait.
Une deuxième pépite ?
Oui, une deuxième pépite.
Alors, combien de chances y a-t-il pour qu'une téléspectatrice découvre une photo de sa propre famille en regardant une série ?
Eh bien, théoriquement, assez peu. C'est pourtant ce qui est arrivé à une femme originaire d'Angers, dans le Maine-et-Loire, le 29 mars dernier. Donc, cette Angevine suivait chez elle le sixième épisode de la série Les Témoins, dont France 2 diffuse la deuxième saison lorsqu'elle a reconnu une photo d'elle et de ses deux frères prise il y a 46 ans. Il s'agit d'un cliché que découvre dans un folinat désinfecté l'héroïne, la policière Sandra Winkler, incarnée par Marie Dompnier, dans le cadre d'une de ses enquêtes. L'incident n'a pas du tout amusé la famille. L'affaire est désormais entre les mains de la justice puisque les deux frères et leur sœur réclament à la société de production Ciné-TV 30 000 euros chacun. L'un d'entre eux avait mis cette photo donc sur le site Copain d'Avant pour retrouver des amis d'enfance et les producteurs l'ont utilisé sans rien demander à la personne. L'avocat de la famille assure que pour ses clients, se voir à la télévision assimilé à des proxénètes, des violeurs ou des psychopathes est un vrai traumatisme. La société de production conteste ce traumatisme, estimant qu'on ne les reconnaît pas. Or, pour l'avocate de Ciné-TV, la photo a été prise il y a 46 ans. Aucun élément ne permet de dire que c'est eux aujourd'hui, quoi. Donc 90 000 euros pour des personnes qu'on ne reconnaît pas, c'est beaucoup. Le délibéré sera rendu le 6 juillet prochain.
Alors 46 ans, alors en fait c'est comme ça qu'ils font dans les télés quand on voit des images, par exemple du passé, etc. Ils vont piocher sur le net carrément.
Voilà. Mais normalement ils sont censés demander l'autorisation.
Bah oui, mais comment ils savent que c'est un tel?
Par exemple, si c'est le site Copain d'Avant, on a la personne, tu sais, on a le
contact. Ah, il y a les noms et tout, oui. C'est pas des pseudos?
Non, d'accord. Non, Copain d'Avant c'est... Comme tu es, tu mets ton nom, ton prénom, ce que tu as fait, ton parcours professionnel, école, etc. Quoi.
D'accord.
C'est comme trombi.com.
Si ça faisait 46 ans, il avait quel âge
Ils étaient jeunes, je pense qu'ils devaient avoir une quinzaine d'années. Quoi.
Primaire.
Ouais, c'est ça.
Faites attention hein, quand vous mettez vos photos, quand vous ne vous retrouvez pas dans un téléfilm. Wanted. Ok, on se retrouve tout à l'heure, CZ, pour de nouvelles pépites.
Sur un tout déclic. 106.3. On en parle ou pas?
Je sais pas.
C'est comme tu veux. Soit on en parle ou on en parle pas. On en parle ou pas?
Ok, on en parle.
Alors Philo, on en parle ou pas?
Oui, comme je le disais tout à l'heure. Alors j'ai deux débats. Les soldes ou vive la France. Alors, donc est-ce qu'on parle des soldes qui arrivent en fin de mois et on n'a pas de sous pour aller faire ces fameux
non,
soldes?
Non, on n'en parle pas.
On n'en parle pas. Bon. Eh bien, on va parler de Daniel Obono. Vous la connaissez tous, alors, je suppose.
Oui, non, c'est quelqu'un de la France Insoumise.
Oui, voilà. D'accord. Alors, avant tout, j'ai envie de dire... Vive la France. Être fier de le dire parce qu'on vit en France ou est-ce une obligation? Point d'interrogation. Depuis le 21 juin dernier, il y a une forte polémique autour de Daniel Obono, qui a été fraîchement élu le 18 juin.
Député.
Député, voilà. Et à peine a-t-elle mis son pied dans le bain qu'elle se fait noyer et attaquer par les requins des médias, de certains journalistes, des patriotes élus du Front National et de certains réseaux sociaux. Et cette polémique concerne la réponse ou pas que lui a demandé Alain Marchal dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, tout en lui lançant des piques sur le fait, en fait, qu'elle ait apporté son soutien en signant une pétition, vous savez, pour le groupe ZEP, qui avait chanté le titre Ta mère, enfin, bon,
bip
disons-le,
la France, bip,
voilà,
la France.
Bip, au cas où les enfants D'accord. nous écoutent. Et donc, lors de ce débat, donc il en a profité pour la mettre dans une position pas très confortable, hein, en lui demandant si elle pouvait dire vive la France, hein, maintenant qu'elle est élue, vu cette pétition qu'elle a signée dans le temps. Vu aussi qu'elle fait partie de ceux qui nous gouvernent, hein, maintenant, ceux qui sont censés représenter, entre guillemets, la France, selon lui. Et donc, sa réponse, ou sa non-réponse, ou j'ai envie de dire sa réponse inattendue, fait débat et ne plaît pas à tout le monde. Je tiens juste à rappeler, pour les auditeurs, au cas où, que dans la pétition de 2012, on y trouvait aussi la signature de Noël Mamère, Clémentine Autain, Éric Coquerel, Eva Joly, Olivier Besancenot. Et est-ce qu'on a entendu ou vu un journaliste lui faire les mêmes remarques qu'on lui a faites à elle?
Alors, alors, moi, j'en il faut souligner que cette dame, donc Danielle Obono, est noire.
Oui,
Obono, pardon, oui, Obono est noir. Hein. Donc voilà, alors c'est une affaire qui date, enfin en tout cas, quand elle a signé, la soutenue et signé la pétition, c'était en 2012, hein. On est quand même en 2017. Et en fait, finalement, maintenant qu'elle est députée pour la France Insoumise, eh ben, on la critique parce que voilà, c'était une pétition qui s'appelait Nique la France.
Voilà, et elle se fait attaquer de parler à droite, à gauche, dans les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, je suis tombé sur un extrait de vidéo de l'émission Arrêt sur image.net, où ils avaient invité des collégiens et un cinéaste pour parler d'un truc qui n'a rien à voir, hein, c'était sur un film documentaire. Et donc, ils ont montré les extraits du débat aux collégiens et deux d'entre eux ont répondu. Je vous fais écouter.
Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ?
C'est pas... Pourquoi vive la France ? Non
mais vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République.
Bah oui, j'en suis honorée.
Vive la France, vous pouvez pas dire vive la France ?
Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi ?
Le 14 juillet. Hein, pas convaincant.
Non mais je sais pas, vous voulez que je mette en garde la France, que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi ?
Non mais parce que vous êtes né au Gabon.
Simplement vive la France.
Non mais c'est parce que
ça. Je suis allée à l'Assemblée, c'était.
Et élu de la République.
Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas mal, et y compris vu d'où je viens.
Mais c'est pour ça.
Si elle veut pas dire vive la France, c'est son choix à elle, mais ça va faire que c'est pas vraiment une vraie députée, vu qu'elle veut pas aider la France.
D'accord, donc en ne disant pas vive la France, on pourrait la considérer justement pas comme une vraie députée.
Oui.
Et alors, tu n'es pas du tout d'accord avec ça, Miliana?
Je pense que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas née en France, qu'elle est obligée de dire vive la France, vive la France. Enfin, par exemple, si ça serait... Enfin, je pense que c'est un peu du racisme. Enfin, c'est pas raciste, mais... enfin. Elle n'est pas obligée de dire vive la France. Par exemple, ils ne vont pas demander à Nicolas Sarkozy ou un truc comme ça de dire vive la France.
Donc, intéressant, ouais.
Oui,
ouais,
très
ouais.
Intéressant la réponse. Donc, il y a deux avis différents. Et ben, oui, moi aussi, je me suis dit aussi, est-ce qu'ils auraient posé la question à, ben, comme elle l'a dit, la petite Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Florence, moi, sans langue de bois, hein, je me dis, pourquoi ils font à Daniel Obono ce qu'ils ne font pas à d'autres? Et surtout que, comme par hasard, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est noire, en plus c'est une femme. Et enfin, voilà. Et donc, je voulais avoir vos avis donc, sans langue de bois.
Donc, on en parle en sachant que, bon, on parlait de Sarkozy, il a quand même traité quelqu'un de pauvre con, des jeunes de banlieue de Raqqa, etc. Donc voilà, alors CZ.
Alors, dans les noms que tu as cités tout à l'heure qui avaient signé aussi la pétition, il y a quand même deux aussi députés qui ont été fraîchement élus. Il y a
Clémentine
et
Éric Coquerel.
Éric Coquerel, ouais. Voilà. Donc, pourquoi on ne ressort pas aussi pour eux, premièrement?
Mais c'est une histoire quand même qui
il y a 5 ans. Hein.
Il y a 5 ans. 5 ans, elle n'était pas élue. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dans cette pétition, mais voilà. Alors, Georges, un avis là-dessus?
Moi, je me dis... Moi aussi, je suis comme elle. C'est de quelqu'un qui est né à l'étranger. Et je suis fier d'être français. C'est vrai, lorsque je suis arrivé en France, j'ai frappé. Je donne toujours cet exemple. J'ai frappé à la porte. La France m'a ouvert la porte. Mm-hmm. C'est-à-dire... J'ai pu aller à l'université, j'ai pu aller chercher travailler, je me suis épanoui, j'ai élevé ma famille et tout. Je me considère comme un Français par entière, comme les autres. Ce qu'il y a maintenant, c'est une analyse lorsqu'il y a des problèmes ainsi. Moi, je me dis, un citoyen, lorsqu'il prend le nom d'un citoyen français, il respecte tout ce qu'il y a en France. Positif ou négatif, malheureusement. Dans les cas où il est un représentant de la nation, évidemment, c'est elle qui va voter la loi, c'est elle va montrer un exemple aux autres que aussi la loi elle est pour tout le monde et pour elle aussi cette loi s'applique. Qu'est-ce qu'il y a ? Parfois, on se montre autrement. Moi, je me dis parfois, si on étudie un peu la personnalité de la personne elle-même. Parfois, on cherche de noix seulement pour que les gens parlent de nous. Et comme on dit vulgairement, c'est-à-dire un enfant va pisser au milieu de la route pour tout le monde qu'il dit oui, c'est pas bien, t'es fait. Comme ça, on parle de lui. Et peut-être, attentionnellement, elle ne pense pas à ça. Mais pour que les gens elle parle, même ici dans la radio, on parle d'elle. Eh bien, on fait plus de publicité pour elle que pour les autres qui sont des citoyens lambda, qui suivent les chemins en respectant la loi, en travaillant, en disant vive la France, vive la République, et pourquoi pas, lorsque je dis vive la France, moi en tant que Français, je dis vive moi aussi avec. Et à cause de ça, c'est-à-dire c'est un mot qui englobe tous les citoyens français. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre quelque chose comme c'est contre la République ou elle n'aime pas la République. Peut-être elle-même, elle aime plus que moi et les autres la République. Mais c'est une façon de se défendre, de se montrer, de se présenter. Parfois, malheureusement, on fait trop de tralala pour des choses qui ne signifient pas quelque chose d'important.
Oui, d'autant plus que c'est pas elle qui a dit nique la France. Alors, je reviens dans le contexte, on est en 2012, elle n'est pas encore élue, elle n'est pas encore représentante de la République, et il y a un groupe qui s'appelle ZEP, Zone d'Expression Populaire, qui donc c'est un groupe de hip-hop qui fait de la musique, et dans un de ses albums, il y a un titre qui s'appelle nique la France. Donc, ça a fait polémique, etc. Et elle a défendu ce groupe. C'est comme, aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle NTM. Voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ils sont sortis, ils ont fait des disques, etc. Ils véhiculaient certaines idées que certaines personnes étaient d'accord avec ces idées, parce qu'ils dénonçaient quand même pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que les gens qui défendaient ces idées-là étaient d'accord avec le titre cautionnaient le titre. Donc moi, je pense que c'est un faux procès qui lui est fait, et parce qu'on lui fasse ce procès-là, à ce moment-là, on le fait à toutes les personnes qui ont soutenu ce groupe. Pourquoi qu'à elle? Parce qu'elle n'est pas née en France, elle est du Gabon, je crois. Oui. Elle est gabonaise, en tout cas née au Gabon. Aussi, oui. Mais en tout cas, elle a la nationalité française, puisqu'elle est députée, c'est une Française. Donc voilà, ça commence à bien faire le traitement qui est fait médiatiquement à des gens issus de la diversité ou à des femmes, parce que on voit bien qu'aussi que le traitement médiatique n'est pas le même quand un journaliste s'adresse à une femme ou s'adresse à un homme. Qui veut réagir? Oui. Georges.
Je voulais compléter, mais c'est ça, la République. La République, si tous étaient des mêmes moules, tous, ils parlaient de la même chose, ils répétaient les mêmes phrases et tout, franchement, n'était pas bien de vivre dans un pays ainsi. La beauté de la France, de chacun, elle peut dire des choses, même si contre les autres. Et souvent, on se trompe en disant, parce que celui-ci, il me critique, il m'aime pas. Peut-être, en me critiquant, il aime plus. Mais seulement, elle veut mettre le poids sur les i pour montrer, il y a ta, cette opinion, ou telle opinion, ou telle opinion. La grandeur de la France, c'est pas parce que moi, toi et vous les autres, ils disent, mais il ne faut pas oublier lorsqu'on parle. Pourquoi on dit, tourne ta langue cette fois dans ta bouche, avant la, lorsque le mot il sort, tu n'aimes plus. Et il y a des gens, ils aiment ça. Ils aiment ça de provoquer, de te pousser au ultime pas. Pourquoi? Pour choisir des choses qui, même parfois, tu l'as dit ça, avoir pensé, ah, tu as dit ça, ah, tu as dit ça. Mais ce n'est pas parce que je dis ça, à un moment donné, je ne peux pas regretter et devenir un bon citoyen.
Complètement.
Et je pense le procès qu'elle fait à cette dame, moi je me dis, franchement, c'est déjà, je n'ose pas le dire, des débilards, mais déjà non respecté d'eux-mêmes. Et même, moi, je me dis, il y a déjà qu'il insulte tout le monde, il y a déjà qu'il insulte, qu'il crie, il hurle, et ils sont respectés comme les autres citoyens.
Bien sûr. Ouais. Ou par rapport à certaines choses qui sont faites, ou quand on voit il y a des hommes politiques qui voilà qui sont des grands voleurs, disons-le quand même.
N'est-ce pas ?
Voilà, où sont tous ces gens-là ? Où sont les procès faits ? CZ.
Oui, non, mais là autant vu qu'ils ressortent les noms. Enfin voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Clémentine Autain, Éric Coquerel, bah faut leur dire aussi. Ah oui, mais vous avez signé.
Voilà. Oui, dites vive la France.
Voilà. Non, mais dans ces cas-là, voilà, autant aussi aller les voir et pas que elle.
Oui, puis même si on dit vive la France, c'est pas pour ça que. Enfin, voilà, c'est un petit peu. C'est regrettable, moi, je trouve.
C'est dommage.
C'est un peu dommage.
C'est un faux procès, seulement pour parler, pour dénigrer, pour dire que les citoyens d'origine étrangère sont moins citoyens comme les autres, aiment moins la France, et c'est faux.
Voilà.
Souvent, les citoyens d'ailleurs. Née ailleurs, elle aime plus la France parce qu'ils sont venus pour l'amour de la France, pour la culture de la France. Elle investit plus que les autres, comme on dit malheureusement, qui sont des voleurs, qui sont tel ou tel ou tel. Bah, je me dis bravo à ces gens.
Ouais.
Voilà, ben, je vous remercie pour vos réponses et vos avis. Et donc, je vais finir cette chronique avec un groupe, justement, aussi, qui a fait parler. Hein. C'est avec le titre Bleu, Blanc, Rouge. C'est le groupe Raga Sonic. Merci.
Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Et les mineurs bleus et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume. Pour rire dans la vase d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois je suis armé mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Raga
Jason et son anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Pourquoi ne veux-tu pas que je puisse faire surface? Oh, oh, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos et les mines, les rebeux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nafas se font. Y'a trop de fachos, y'a trop de collabos. J'appelle tous les rebeux et les négros. Faut que l'unité soit ancrée dans notre peau. Vigre et des morts, reviennent à l'assaut. On pêche le micro comme des radamants. Fils soldats, on ne fait pas de cadeaux. Bleu, blanc, rouge ne sont pas les couleurs de mon drapeau.
Les yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne peux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crasses, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Pourquoi ne veux-tu pas que je puisse faire surface? Oh,
en direct de Radio Déclic. Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous êtes avec nous de 18h à 19h.
18h à 19h. Tous les premiers, troisième et cinquième vendredis de chaque mois.
On continue avec une nouvelle pépite de CZ.
Oui, avec les températures donc caniculaires de la semaine dernière, les conducteurs de bus et de tramway nantais sont venus travailler en jupe. Et oui. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un effet de mode, hein, mais avec cette tenue, ils voulaient protester contre l'interdiction par la direction de l'entreprise de pouvoir travailler en Bermuda ou Pantacourt lors de fortes chaleurs. Donc la jupe fait partie de la dotation vestimentaire pour les collègues femmes et nous n'avons pas d'équivalent, donc justifie Gabriel Magnier, représentant CFDT. Donc depuis 2013, nous portons la revendication que les hommes puissent porter un Bermuda ou un Pantacourt après un certain seuil de température, mais la direction semble vouloir garder une image de marque. Donc selon eux, la température dans les trams ou dans les bus peut atteindre 50 degrés derrière leur pare-brise, et ils ont déjà donc des conditions de travail compliquées avec les agressions, et donc ils estiment que cette mesure pourrait un peu les soulager. Donc la direction n'aurait pas encore répondu aux sollicitations donc, du syndicat. Après cette action qui ressemble à celle menée par les conducteurs suédois en 2013, eux avaient finalement obtenu gain de cause.
C'est vrai que par cette chaleur, là, il y a eu 3 jours de canicule, c'est pas évident. Il fait chaud dans les bus et les tramways déjà. Oui. Donc, que les conducteurs puissent venir en Pantacourt, moi, franchement, je trouve pas que ça soit gênant. Philo, tu trouves ça gênant?
Ben non, en plus, surtout qu'ils sont assis, enfin. Bah déjà, pas,
voilà, il fait chaud. Et puis qu'ils nous mettent aussi la clim hein, dans les tramways et le métro, hein, déjà aussi. Hein.
Bah surtout les conducteurs de tram, on les voit pas. Conducteurs de bus, oui, on les voit, mais les conducteurs de tram, on le voit pas. Donc à la limite, qu'ils soient même.
Même en short.
En short, c'est pas gênant. Enfin
bon. Bon, une deuxième pépite?
Oui, alors donc la famille Kerrigan a vécu un véritable choc émotionnel en quelques jours. Donc le 6 mai dernier, Frank M. Kerrigan, 82 ans, reçoit un appel des autorités du comté d'Orange en Californie, qui lui apprennent donc qu'un corps correspondant à son fils Frank, oui, il a le même prénom, a été retrouvé sans vie. Donc 57 ans, cheveux poivre et sel, yeux bleus. En effet, la description du cadavre correspond en tout point au fils atteint d'une maladie mentale et qui avait décidé de vivre sans domicile fixe. Donc selon un rapport du médecin légiste, l'homme est mort avec du liquide dans les poumons. Son identité a également été confirmée grâce à ses empreintes digitales relevées par les équipes médicales qui précisent au père qu'il est donc inutile de venir identifier le corps. Après avoir appris donc la mauvaise nouvelle, la sœur du défunt s'est pressée à l'endroit où le corps a été découvert, près d'un magasin de téléphonie mobile, et s'est forcée à regarder. En outre, le père et la sœur ont indiqué vivre constamment dans l'inquiétude pour Franck à cause de son état de santé. Ce dernier refusait également de vivre dans un foyer. Donc des funérailles ont été organisées dans une église catholique en présence de nombreux proches et amis. Quelques jours auparavant, la famille avait pu voir le corps dans son cercueil, expliquant qu'il était malgré tout difficile de le reconnaître. Donc la cérémonie a coûté 20 000 dollars, soit 17 843 euros. Mais 11 jours après l'enterrement, Franck M., donc le père, reçoit l'appel d'un ami de la famille, qui a notamment aidé à porter le cercueil. Il lui explique que son fils est toujours vivant.
Ben.
Et là, donc, au téléphone, il entend « Bonjour papa ». Donc choqué et heureux, bien sûr, la joie et le soulagement de la famille ont ensuite laissé place à la colère. En réalité, donc, le corps de Franck a été identifié sur la base d'une vieille photographie d'un permis de conduire. Après qu'un témoin a affirmé que cela ressemblait à Kerrigan, qui avait grandi non loin du lieu où le corps a été retrouvé. Donc pour la sœur, le comté n'aurait pas été si négligent si Franck n'avait pas été sans abri ni atteint d'une maladie mentale. Donc la famille Kerrigan a donc décidé de poursuivre en justice le cabinet des médecins légistes, indiquant que ceux-ci ont bafoué les droits civiques de Franck. Une enquête a été ouverte.
Incroyable, hein, on a l'impression, voilà, on nous annonce que notre enfant est mort.
Ils font la cérémonie,
le deuil, etc. 11 jours après, coucou, me voilà.
Donc ils ont enterré quelqu'un qui n'est pas leur fils et qui savent qui c'est.
Mais alors ça veut dire que les empreintes digitales, en fait, ils n'ont pas pris parce que.
Bah oui, c'est certainement. Ils ont dit oui, on l'a fait.
Oui, voilà, c'est clairement. Oui, puis comme c'est un SDF, en plus que... il avait une maladie mentale.
Ils
s'en foutent, philo.
Ah, donc un SDF, voilà, c'est un moins. Investissement de travail. Voilà. Que...
Ouais, moins de valeur, etc. Ouais. Georges ?
Bah, je me dis, c'est dommage, donc ces messieurs qui étaient enterrés étaient qui ?
Ben oui, bonne question. On ne sait pas.
Bah, ça, oui. L'histoire ne dit pas.
Incroyable. Donc l'eau dans les poumons, donc c'est certainement noyé. Donc on ne sait pas, peut-être des nouvelles un peu plus tard. En tout cas, voilà une pépite assez bizarre. Ça
troublante.
Troublante, voilà.
Mais à cause de ça...
En tout cas, ça se passe en Californie.
À cause de ça, je ne lui souhaite pas, mais quand il sera vraiment mort, ça se trouve, ils ne croiront pas. Hein.
Ben peut-être, ouais, deux fois, ça fait beaucoup. Hein. Allez, on sait tout de suite la rubrique de Georges.
Et tout de suite, sur Radio Déclic,
la chronique de Georges.
La chronique de Georges.
La chronique de Georges. C'est maintenant.
Alors Georges, le 14 juillet arrive bientôt, la prise de la Bastille, et vous allez nous parler aujourd'hui de Marie-Antoinette.
Exactement, monsieur Dan, bonsoir. Marie-Antoinette, elle a joué un rôle important dans l'histoire de la France, malgré ses rôles étaient tragiques. Mais Marie-Antoinette, elle est la fille de François Ier, l'empereur autrichien, empereur du Saint-Empire germano-romain, et sa mère était Louise Thérèse, duchesse ou archiduchesse de Habsbourg. Cette fille, elle est née en 1755, évidemment, était élevée dans le palais impérial. Il a eu une bonne éducation, il a eu toutes sortes d'éducation musicale, artistique et tout. C'est-à-dire, comme on dit, était une fille d'éducation complète. La France, comme toujours, était en guerre contre l'Autriche. Il y a un ministre qui s'appelle Choiseul, il a dit, pour arrêter la guerre et chercher la paix, il faut demander la main de la princesse pour Louis XVI. Et ce que fout. Donc, Louis XVI s'est marié avec Marie-Antoinette à l'âge de 16 ans. Et lorsqu'elle s'est mariée avec elle, elle lui a donné le pouvoir d'organiser la jouissance du palais. Elle, comme elle aimait bien ça, donc une fois, deux fois, même parfois trois fois par semaine, organiser des fêtes, des bals et tout. Donc, et elle assumait bien parce qu'elle avait la maîtrise de ces organisations. Mais ce qu'elle n'aimait pas beaucoup, c'est la rigidité du protocole royal au palais royal, c'est-à-dire qu'il fallait s'élever à telle heure précise, habiller tous les jours à tel vêtement, telle coiffure et tout. Elle était plus libérale que ces protocoles. Donc, elle allait souvent au Trianon pour s'amuser un peu, pour soulager, pour distraire avec ses copines. À côté de ça, il était entouré des peintres, était entouré des savantes et de gens qu'elle discutait bien avec eux. Mais la famille proche du roi, surtout sa tante Adélaïde, elle l'a nommée l'Autrichienne. Autrichienne, péjorativement. Et son nom s'est collé à elle comme sa peau. Et tout le monde maintenant, il y a des écrits, il y a des journalistes qui se moquent d'elle, autrichienne, autrichienne, autrichienne. Et en plus, ce qu'il a ajouté encore de problème au problème, il a resté 8 ans, ça donnait un héritier au roi. Après 8 ans, il a eu 4 enfants. Il a la première, une fille, Mademoiselle Royale, née en 1778. Après, il a eu un garçon, lui, Alexandre François, 1781. Après, il a deuxième garçon, lui, François. Et après, il a eu une fille qui s'appelle Sophie Adélaïde. Mais malheureusement, la fille, la dernière, est décédée jeune, c'est-à-dire enfant. Mais lorsque la révolution arrive, elle, c'est-à-dire, n'était pas dans le monde de révolution, n'était pas quelqu'un élevé parmi les peuples, parmi les gens de tous les jours, les citoyens lambda. Et surtout, lorsque, avec le roi Louis XVI, lorsqu'il a organisé sa fuite pour aller à l'étranger, était capturé et sont revenus, elle et Louis XVI étaient incarcérés. Lui était guillotiné en 1793 et elle est mise dans la prison des temples, après dans la conciergerie, et finalement était condamnée elle aussi à être guillotinée en 1793. Mais la dame Marie-Antoinette, elle a montré un courage d'avoir supporté, parce que vraiment la justice populaire, révolutionnaire de cette époque, c'est-à-dire elle faisait tout pour que soit guillotinée. Parce que ce n'était pas seulement parce qu'elle était fautive ou coupable, mais parce que, comme on dit, la famille royale dans cette époque était devenue un fardeau lourd à la population. Donc finalement, elle était condamnée à mort, était guillotinée, et elle a monté sur la guillotine courageusement. Et après sa mort, l'année 1815, les restes, ce qui restait d'elle et de Louis XVI, a été transféré à la basilique de Saint-Denis, dans les cryptes royales, et sont, c'est-à-dire les restes, c'est à Saint-Denis, pour l'éternité. Moi, je me dis, l'histoire, c'est l'histoire. Mais la grandeur d'une nation et la grandeur d'une population, d'être capable de pardonner. Dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la grandeur d'âme est de pardonner à ces gens, malgré, parce que c'était, c'est-à-dire, à une époque, il fallait qu'il se termine ainsi. Et il ne pouvait pas terminer autrement. Donc, c'est terminé ainsi, mais comme la France est grande, la France est puissante, la France, elle pardonne à tout ce qui est passé. Et malgré ça, ces gens, ils ont rendu un service pour la France. Donc, avec tout ce qui se passe, on crie ensemble, vive la France, vive la République, et à la prochaine fois.
Voilà, Cézanne, un petit mot là-dessus ?
Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que j'ai toujours entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que la veille de se faire guillotiner, Marie-Antoinette, elle a eu ses cheveux blancs en une nuit ?
Franchement, l'histoire... Peut-être il a dit ça de chagrin parce que son fils aîné, il est aussi mis pendant la révolution. S'il a dit, il a eu souffrance absolue parce qu'il était jeune, encore n'avait pas 40 ans. Et c'est vrai, si on voit les images qui étaient restées d'elle, on disait c'est une personne de 70 ans de cette époque. Donc sans doute, ses cheveux devenaient blancs. Mmh. Mais du jour et lendemain, c'est...
Voilà, en plus, en sachant qu'elle était quand même autrichienne, donc voilà, peut-être qu'elle était un petit peu déjà blonde. Parce qu'elle est morte à 37 ans, hein, elle était très jeune. Hein. Très Alors, jeune. Je sais que je crois qu'elle n'était pas très aimée du peuple français. Hein.
N'était pas aimé, c'est, je peux dire, c'est normal, parce que ces gens ne sont pas faits. Si au moment tu ne mélanges pas avec le peuple, tu ne sais pas comment vit le peuple, quelles conditions du peuple, la pauvreté était absolue, la faim était absolue, et elle visait dans le palais royal. Comment veux-tu qu'il soit aimé?
Oui.
C'est quelque chose illogique qu'il soit aimé.
C'est vrai. Ouais. Eh bien, pour clôturer tout ça, on va écouter le titre « Bienvenue à Paris », puisque tout ça, ça s'est passé par là. Et puis, c'est la version de Vita.
Paris, Paris, Paris. Paris, Paris. Bienvenue dans les rues de Paris. Ici, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit. Et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique, un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici c'est Paris. C'est Paris. On monte à Montmartre avant on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrêtent à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris. C'est Paris.
C'est la fin de notre émission. On se retrouve dans 15 jours, mais pas tout le monde, parce que Georges, il part en vacances.
Donc... Heureusement pour moi.
Oui. En tout cas, Georges, on vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve à la rentrée, Georges.
Ce que je souhaite, mais pour vous aussi, c'est que même si vous restez ici, il faut vivre dans un climat de vacances, parce que l'essentiel, que vous soyez heureux où vous êtes.
Voilà.
Et même ici... Il y a tant de belles choses à voir, des fleurs, des papillons, des transecs, les gens, des belles filles et tout ça, qu'elle fait la vie. Et c'est que cette vie de bonheur, je vous la souhaite aussi.
Mais dans merci, mon absence. Merci Georges, et puis encore une fois, bonnes vacances, et puis on se retrouve à la rentrée beaucoup. Pour de nouveaux rendez-vous. CZ ?
Oui, c'est la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine, oui, tout à fait, puisque ça, on enchaîne avec le premier vendredi du mois, puisque celui-là, c'est le cinquième vendredi du mois. Donc CZ, dans 15 jours, avec de nouvelles pépites ?
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, mais oui, en plus, on vient de le dire. Non, mais je suis déjà moi aussi dans les vacances. Je pense que Georges va m'emmener avec lui, parce que voilà, j'ai besoin de vacances aussi. Donc, CZ, on te retrouve la semaine prochaine.
Avec des pépites.
Avec des pépites. Philo, la semaine prochaine aussi ?
Eh bien oui, je suis là pour l'instant.
Voilà. Et puis, ne me dis pas ça avec cette voix triste. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mehdi sera là aussi, en espérant qu'il nous a trouvé des choses dans ses fouilles. On verra bien. Et puis, à la réalisation technique, c'est Senzo pour la playlist musicale. Et puis, les petits plans aussi, les petits pains d'ailleurs. Allez, hop, je balance. Voilà, donc on se retrouve tous la semaine prochaine. Restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour la suite. Ça, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Sur 106.3, salut, bye bye.
Tous les premiers, troisième, cinquième vendredi du mois, t'es sur Radio Déclic. 106.3 de 18h à 19h. Fréquence Paris pluriel.